Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui la fête du Sacré-Cœur, qui normalement est fêtée vendredi dernier, mais qui est toujours reportée au dimanche suivant. Nous pourrions reprendre mon sermon de dimanche dernier sur la Sainte Eucharistie, dans lequel je vous ai montré l'amour de Dieu qui descend jusqu'à nous, de manière à nous faire remonter jusqu'à lui. Je ne vais évidemment pas me répéter, et je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'est l'amitié. L'amitié est une des choses les plus belles chez les hommes. Les jeunes se préoccupent d'avoir des amis et se demandent ce que peut bien être ce mystère, car on sent bien qu'il y a un mystère dans l'amitié, même tout simplement humaine. Cicéron a écrit sur l'amitié, Aristote également. Il en fait presque le sommet de la vie humaine. Or, lorsque saint Thomas d'Aquin veut expliquer ce qu'est la charité, il reprend tout simplement Aristote, et il nous dit que la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, est une amitié. Il y a une amitié entre Dieu et nous. Dieu crée une amitié entre lui et nous. Et il importe par conséquent de savoir ce qu'est vraiment l'amitié. Vous avez deux types d'amour. Tout d'abord l'amour de convoitise, qui est un amour intéressé, qui est dans l'intérêt de celui qui aime. Par exemple, un enfant aime son petit chien. Ça n'est évidemment pas dans l'intérêt du chien, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Cet amour de convoitise est tout à fait légitime, à condition qu'il soit orienté par celui qui aime vers quelque chose de plus haut. Et vous avez l'amour de bienveillance. Celui-ci est un amour plus élevé dans lequel on veut du bien à quelqu'un. Cet amour de bienveillance peut être unilatéral, c'est-à-dire sans réponse de celui qui est aimé. C'est par exemple l'amour du médecin pour ses malades, l'amour du professeur pour ses élèves. Le médecin aime ses malades et n'attend pas nécessairement un amour en retour, de la reconnaissance, peut-être, pas toujours, hélas. Or, vous constatez que c'est très naturel pour un médecin d'aimer ses malades, de même qu'il est très naturel pour un professeur d'aimer ses élèves. Et d'une façon générale, il est très naturel pour un homme, une femme, un enfant, d'aimer son prochain, d'aimer quelqu'un, de trouver quelqu'un à aimer et auquel faire du bien. Et sans en attendre nécessairement une récompense en retour. Il est évident que si cet amour de bienveillance, donc, est payé de retour, à ce moment-là, il y a une richesse réciproque. Et cet amour réciproque s'appelle l'amitié. L'amitié est un amour de bienveillance partagée, réciproque. Vous avez autant d'amour qu'il y a, et donc d'amour d'amitié, qu'il y a d'objets à aimer. C'est important parce que on confond les objets, et donc on va confondre les amours. Vous avez un homme comme Abel Bonnard qui a écrit sur l'amitié et qui dit des horreurs sur l'amitié de charité parce qu'il voit une faiblesse, il voit une faiblesse dans cette charité. Il n'y a que l'amour d'amitié qui serait noble. Alors, Aristote et saint Thomas d'Aquin, à sa suite, classent les biens à aimer en trois catégories. Vous avez tout d'abord les biens sensibles, et l'amitié dans les biens sensibles est l'amitié de ceux qui font la fête. Elle peut être légitime, nous verrons cela. Vous avez ensuite les biens utiles, qui n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes, mais qui en ont parce que cela permet de monter plus haut. Un exemple d'amitié utile, c'est l'amitié des marchands. Et puis vous avez enfin les biens honnêtes. Les biens honnêtes sont désirés pour eux-mêmes, ils ne sont pas désirés pour autre chose. Par exemple, la vertu. Si je désire être vertueux, c'est pour être vertueux. Ce n'est pas pour être estimé, ce n'est pas pour être payé, ce n'est pas pour que sais-je. La science est désirée pour elle-même. Les biens de l'esprit sont les biens honnêtes. Dans la famille, les trois biens se retrouvent. Vous avez le bien sensible, qui est l'agrément de vivre ensemble. Vous avez les biens utiles, qui sont les enfants. Oh, je sais, cela va vous surprendre, mais allons jusqu'au bout et vous comprendrez. Et vous avez le bien honnête dans la famille, qui est la vertu. Pourquoi ai-je dit que les enfants étaient un bien utile et non pas un bien honnête? Parce que la qualité d'un enfant se trouve dans sa vertu. On a des enfants pour avoir des adorateurs du vrai Dieu. Tout enfant n'est pas un adorateur du vrai Dieu. Il faut qu'il le devienne. Et donc l'enfant est bien un intermédiaire entre la sensibilité en dessous et au service de l'honnêteté, c'est-à-dire de la vertu et donc de la gloire de Dieu. Faire de l'enfant un bien honnête, c'est-à-dire qui a sa valeur en soi, c'est les droits de l'homme, c'est le modernisme, c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui avec des slogans « l'enfant et l'avenir », ce qui est vrai d'une certaine manière, et qui font un peu l'enfant roi. Donc, nous avons dans la famille un amour très complet. Qu'en est-il maintenant de l'amour avec Dieu? Avant que nous passions à l'amour avec Dieu, que je termine quand même en vous parlant de l'amour de sensibilité. La sensibilité, comme le corps, est au service de l'esprit, de l'âme, de la vertu. Et donc, l'amitié dans la sensibilité est parfaitement légitime si elle est au service de la vertu. Par contre, si on renverse les choses et qu'on fait de la sensibilité un but et de l'amour, de l'amitié dans la sensibilité un but, alors là, effectivement, il y a des ordres. Il est important de le dire parce que notre Seigneur a aimé ses amis et il les a aimés également d'un amour sensible. Lorsque Lazare est mort, notre Seigneur pleure et les assistants font la remarque « Voyez comme il l'aimait ». C'est-à-dire que notre Seigneur montre un amour sensible. Et on retrouve cet amour sensible tout au long de l'Évangile. Mais vous avez remarqué que cette sensibilité, cette affection de notre Seigneur est toujours en vue de fermenter vers la foi et vers Dieu le Père. Je vous ai dit que l'amour de charité était un amour d'amitié, c'est-à-dire qu'il y a une égalité. On ne peut pas être ami sans égalité. La justice met l'égalité, l'amitié repose sur l'amitié qui préexiste. Cela veut dire que Dieu a voulu, pour créer une amitié avec lui, nous élever à son niveau. Il le fait par la grâce. La grâce nous élève, grâce sanctifiante, ce qui nous permet de communiquer dans l'amitié au même niveau que Dieu. L'amitié avec Dieu a quelque chose de particulier. À la différence de celle des hommes, parce que dans l'amitié des hommes, il y a un idéal commun. En Dieu, l'amitié divine, cet idéal commun, c'est un des deux amis, c'est Dieu. Dieu est l'idéal qui est partagé par les deux amis, à savoir Dieu et le chrétien. Et l'amitié est une communication. On a souvent traduit ça par le terme « échange ». On trouve cela dans les exercices de saint Ignace. Et cela a été très mal compris, vu d'une façon matérielle. J'ai, tu n'as pas, je te donne ce que j'ai, du coup ce que j'ai donné, je l'ai gardé plus ou moins. Ce n'est pas vraiment cela l'amitié, tant que quelqu'un n'a pas, il n'est pas à notre niveau. Disons que l'enrichissement mutuel est plutôt une conséquence. L'amitié est un échange, elle est une communion. Elle est une union dans un bien. Je vous ai parlé d'idéal très souvent, je vous ai parlé d'enthousiasme, qui sont les termes que je trouve les plus expressifs à notre époque pour traduire des termes qui ont peut-être perdu leur valeur profonde à nos yeux, les termes employés par saint Thomas d'Aquin. Il y a un enthousiasme commun, il y a un idéal commun, une vertu qui est commune. Quelle est la conséquence de l'amitié que nous avons avec Dieu? C'est une consécration. Un ami, d'une certaine manière, se consacre à son ami. Le mot est un peu abusif parce qu'il s'agit de sacré. Toute amitié n'est pas sacrée. Dans la famille, avec le mariage, il y a une véritable consécration. Le mari se consacre à sa famille et à sa femme, la femme se consacre à son mari et à sa famille, et les deux sont consacrés à Dieu, puisqu'il y a un sacrement qui est sacré, sont consacrés à Dieu parce qu'ils partagent avec Dieu cette œuvre commune de former les chrétiens. On peut donc parler de consécration dans l'amitié humaine, mais la vraie consécration, c'est dans l'amitié divine. On est consacré à l'ami Dieu. On peut se préoccuper des choses profanes, mais uniquement dans la mesure où elles vont permettre d'enrichir l'amitié. Le profane, directement, n'enrichit pas l'amitié divine. Mais elle sert d'escabeau pour enrichir l'amitié divine. Et la conséquence de la consécration, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que on immole tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui est étranger à l'amitié, tout ce qui pourrait la souiller, tout ce qui pourrait même en détourner, même sans la briser, va être immolé parce que on veut se consacrer à cette amitié. Il n'y a rien de plus haut. Alors, mes chers enfants qui m'écoutez, car il y a donc des enfants, je l'espère bien, à écouter ce sermon, je termine en m'adressant à vous et je vais reprendre l'exemple des enfants de Fatima. Vous remarquez, si vos parents vous ont lu les mémoires de sœur Lucie, c'est très facile à lire, c'est une excellente lecture du soir, et les vacances approchent, c'est une excellente manière de s'occuper dans ce temps long des vacances. Si vous lisez donc, ou si vos parents vous ont lu les récits de sœur Lucie sur les petits-enfants de Fatima, vous découvrez une très grande fraîcheur dans l'amitié de ces enfants avec la Bonne Dame, de la Bonne Dame, Notre-Dame de Fatima, la Sainte Vierge, avec les enfants. On vit au milieu des anges, trois apparitions dans l'ange. On vit au milieu du ciel, et ces enfants, ayant une fois vu le ciel, vivent, on pourrait presque dire, dans le ciel tout en étant sur la terre. Alors ils sont préoccupés de ramener à Dieu ses amis. Les amis, c'est les pécheurs qui étaient les amis de Dieu et qui, par le péché, sont devenus ennemis. Mais Dieu, lui, n'a pas abandonné l'amitié. Il veut les ramener dans son amitié. Alors il nous demande de travailler à nous ramener ses amis qui se sont éloignés et qui vont de nouveau devenir des amis. Je termine en vous racontant une belle histoire. J'ai reçu un message il y a une dizaine de jours de gens qui me sont totalement inconnus et qui ont trouvé, alors tout à fait par hasard, par providence, mon site internet et qui ont découvert qu'ils tenaient là enfin la réponse à toutes leurs recherches depuis des années. Des catholiques qui se sont bien rendus compte que les choses allaient mal dans l'Église, qui se sont protégés en abandonnant l'Église moderne. Et puis, ils ont abandonné également tout ce qui, même dans la tradition, leur semblait vraiment mal tourné. Ils ont trouvé un prêtre orthodoxe pour le baptême de l'épouse qui n'était pas baptisée encore, et puis pour le baptême de leur enfant. Ben, évidemment, ça ne pouvait pas durer parce que ils sont catholiques, ils ne voulaient absolument pas renier leur sainte religion catholique. Et alors ils ont prié chez eux, ils prient tous les jours, les prières du matin, du soir. Ils se mettent entre les mains de la Sainte Vierge. Et ça fait des années que cela dure. Et puis la Sainte Vierge, enfin ça dure probablement depuis une dizaine d'années, la Sainte Vierge les a guidés sans rien leur dire, elle les a menés. Jusqu'à les explications que je leur ai données aujourd'hui et puis jusqu'à la messe, la première messe depuis longtemps. Hier également, j'ai rencontré une femme musulmane qui a fait des études de droit et qui a réfléchi, qui s'est rendue compte que le droit français était incompatible. Alors elle s'est posé la question, si c'est incompatible, quel est celui des deux qui est vrai? Et Dieu l'a menée, et puis elle s'est convertie. Une fois convertie, elle a bien compris qu'il fallait officialiser cela, et qu'il fallait qu'elle se fasse baptiser. Elle s'est fait baptiser. Et en entrant dans la tradition, elle s'est rendue compte que elle entrait, elle croyait que c'était un aboutissement, elle a bien vu que ça serait un départ, et qu'il allait falloir qu'elle aille plus loin, et que probablement, elle devrait quitter les prêtres qui pourtant l'ont baptisée. Alors, mes chers enfants, je confie ces gens à vos prières. Avec vos parents, lorsque vous prierez, là il ne s'agit pas de la conversion des pécheurs, puisqu'ils sont déjà convertis, mais il s'agit quand même de gens dont il faut assurer la persévérance dans la foi. Alors vous allez prier pour cette jeune femme baptisée depuis 3 ans. Vous allez prier pour cette famille qui est venue me voir et qui compte bien revenir. Et puis vous allez prier pour des pécheurs que vous connaissez, dans votre famille peut-être, et puis d'autres que vous ne connaissez pas. Et ainsi, le bon Dieu vous récompensera de lui ramener ses amis, et il vous donnera encore plus d'amitié entre lui et vous. Et peut-être qu'un jour, vous constaterez qu'il faut consacrer toute votre vie, dans le mariage peut-être, mais aussi dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce, qui sont ces grandes réalités dans lesquelles on vit dans l'amitié de Dieu, on vit avec le bon Dieu, on vit sous le même toit que le bon Dieu, et on, surtout le prêtre, ramène à Dieu un grand nombre de ses amis, et à la joie de voir la puissance de la grâce de Dieu. À bientôt mes chers amis, je vous confie à la Très Sainte Vierge, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.